Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Et alors qu'on se prépare au deuxième Grand Prix de la saison en Arabie Saoudite, les conséquences de la manche d'ouverture à Bahreïn sont-elles encore d'actualité, notamment chez Mercedes, où on essaye de ne pas céder à la panique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas gagné, surtout avec les propos incendiaires tenus par Lewis Hamilton. On essaiera de comprendre ce qu'il se passe en ce moment dans l'équipe de Toto Wolff. Cette semaine, on a aussi un invité. On échangera avec Thibaut de Mérindol, qui est le patron de l'équipe Air Race Grand Prix et qui a fait rouler les trois débutants de cette saison, Nyck de Vries, Logan Sargeant et surtout Oscar Piastri. Il nous expliquera comment il voit le jeune prodige australien. Et puis on fera un petit détour, si tu le veux bien, Stéphane, du côté des États-Unis pour évoquer le coup d'envoi du championnat du monde d'endurance avec les 1000 miles de Sebring qui auront lieu le week-end prochain. Le retour de Ferrari en catégorie reine en endurance, Peugeot évidemment, Porsche, Cadillac. Que valent les équipages face à Toyota? On va faire notre bop à nous, la balance des pilotes. T'es prêt Stéphane, t'as ta crème en Floride?
Et Sebring, ce sera sur Eurosport.
Évidemment.
À suivre les essais, la course, on attend ça avec impatience. Ce sera vendredi d'ailleurs, un jour un petit peu particulier pour une course.
Ce podcast, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, ça nous fera plaisir, et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Vous pouvez aussi vous adresser à nous avec le hashtag lesFDV. Et comme ça, vous pouvez nous soumettre des idées éventuellement de sujets que vous voudriez qu'on évoque, ou alors vous nous donnez votre avis sur ce qu'on dit. Et on commence donc, Stéphane, ce numéro post-Grand Prix de Bahreïn, encore une fois, parce que ça n'est pas terminé après les secousses et la 5e place de Lewis Hamilton, la 7e de George Russell. Il y a les répliques maintenant chez Mercedes, les deux voitures qui ont terminé à 50 et 55 secondes du vainqueur Max Verstappen. Il y a un choc, clairement, chez Mercedes, qui semble avoir véritablement ébranlé les fondements de la firme à l'étoile. Si tu veux bien, Stéphane, on commence tout de suite avec les propos quand même étonnants de Lewis Hamilton, qui jusque-là avait toujours été très très solidaire de son équipe et qui dit après le Grand Prix, l'an dernier, je leur ai dit ce qu'il n'allait pas sur la voiture. J'ai conduit tellement de voitures dans ma vie que je sais ce dont une voiture a besoin. Autrement dit, ils n'ont pas fait ce que je leur avais demandé. Et cette déclaration, Stéphane, elle montre déjà quelque part une forme de scission entre le septuple champion du monde et l'équipe avec laquelle il était vraiment totalement lié. Et ça répond peut-être aussi un petit peu à un premier coup de pression qui était lui avant le Grand Prix et qui avait été mis par Toto Wolff.
Ouais, alors c'est un petit peu surprenant parce que Lewis Hamilton avait la même ligne de conduite que Michael Schumacher chez Ferrari. Tu te souviens quand il est arrivé, casse moteur, problème de fiabilité, etc. Et il ne formulait jamais une critique en public sur son équipe. Et Lewis Hamilton a l'habitude de grogner un petit peu à la radio, mais sur des questions de stratégie, autrement, il est très très mesuré. Et même quand il a des propos un petit peu excessifs à la radio, il s'excuse au plus vite. Et là, c'est un peu un coup de canif dans le contrat de confiance. En tous les cas, moi, j'y ai vu un changement effectivement de discours, parce que là, ils entament une deuxième saison, je dirais, difficile. Lewis Hamilton, on n'a connu qu'une seule chez Mercedes. Il avait gagné un Grand Prix en 2013. Pas de victoire l'année dernière. Et puis, tu as parlé de ces écarts de 50 et 55 secondes. Normalement, à Bahreïn, il y a systématiquement une safety car pour cacher la misère, je dirais, et qui réduit les écarts à l'arrivée. Et là, ça fait mal quand même. Et on a vu vraiment toute l'amplitude. Et quand tu parlais de cette manche de Bahreïn, les conséquences vont être visibles pendant des semaines, parce qu'on a vu tellement de choses que maintenant, chacun est devant ces insuffisances. C'est ça le problème. Et tu le dis, les propos d'Hamilton viennent en écho à ceux de Toto Wolff sans concession. Alors déjà, ça avait commencé en qualif. Le directeur donc, d'équipe avait dit « Aucun de nos pilotes n'a réalisé de tour propre en Q3 ». Donc là, il visait directement les pilotes. Il parlait de quelques dixièmes lâchés, un ou deux, mais il les mettait devant leurs responsabilités en disant « Vous n'avez pas été parfait
oui. ».
Donc là, on commençait à se dire les choses.
Et il a dit quelque chose d'encore plus fort,
il
d'ailleurs.
Il a dit « Il n'y a pas de vache sacrée dans notre équipe ». Et d'ailleurs, toute notre équipe pense comme ça. Nous avons juste besoin de réfléchir ensemble, c'est-à-dire de poser les choses et chacun dit ce qu'il en est. Et là, Lewis Hamilton lui a répondu en disant, écoutez, la première chose, c'est que vous n'avez pas pris en compte voilà, mes critiques. L'année dernière, j'ai piloté tellement de voitures que je sais comment ça se passe et je sais ce qu'il faut mettre sur une voiture et ce qu'il faut enlever surtout.
Voilà, donc il y a une forme j'allais dire d'explosion. Non, le terme n'est pas encore celui-là, mais on sent une petite fracture quand même là dans cette équipe qui est en train d'apparaître.
Incontestablement, il y a un état de crise. De toute façon, c'est
ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, ouais. C'est ça. Mercedes est en crise maintenant parce que l'année dernière, on pouvait mettre ça sur le compte du marsouinage, c'était un phénomène que tout le monde découvrait et qui était manifeste spécialement chez Mercedes. Et ça s'est amélioré peut-être en fin d'année. Le concept à l'automne de ponton minimaliste semblait être mis de côté pour la voiture de 2023. Puis finalement, il l'avait gardé, peut-être mal guidé, entre guillemets, par les progrès de la voiture en se disant on va les garder et puis on va faire le dernier step pour 2023. Il n'en est rien. Après la course, Wolff a dit c'était l'une de nos pires courses. Et puis globalement, il manque de tout, du grip. De la vitesse de pointe sur la voiture qui use beaucoup trop ses pneus aussi.
Exactement. Alors, cette situation de crise, elle se voit surtout et elle s'est vue dans les jours qui ont suivi le Grand Prix de Bahreïn et on a presque envie de dire que ça continue avec beaucoup, beaucoup de publications sur les réseaux sociaux de la part de Mercedes F1 et notamment une lettre ouverte carrément aux fans en expliquant. Alors, on vous a pris quelques extraits, mais si vous allez sur le compte Twitter de Mercedes F1, vous allez facilement la retrouver. C'est une publication qui date du 11 mars, donc du samedi suivant le Grand Prix. C'est vous dire si ça s'est échelonné, hein. C'était quasiment une semaine après le Grand Prix. Quelques phrases qui ont retenu notre attention. Nous ne paniquerons pas et nous n'aurons pas de réaction instinctive. Autrement dit, on ne va pas tout jeter à la poubelle tout de suite. Au sein de l'équipe, nous parlons d'avoir le courage d'échouer, le caractère d'être responsable et la force de voir l'échec comme une opportunité. Bon, déjà, ça aussi, ça commence à être des éléments de langage un peu bizarres.
Crise égale opportunité.
C'est ça.
On reprend tous les bons éléments de la communication. Hein,
ce qui ne nous tue pas vous rend plus fort. Hein, voilà, les genres de poncifs comme ça. Autre phrase, nous avons déjà des développements en préparation pour les prochaines courses et il y en aura d'autres à venir. On l'a notamment vu dans une vidéo publiée toujours par Mercedes avec Andrew Chauvelin, hein, qui a pris la parole, qui essaye d'expliquer beaucoup de choses.
Le directeur de l'ingénieur épice, donc en fait, c'est le responsable de l'exploitation sur place, sur les circuits, en charge en fait d'exploiter le matériel, donc les réglages, de tout optimiser pour la qualification et la course.
Et enfin, dernière citation qui a retenu notre attention, « Nous sommes Mercedes, nous connaissons les exigences auxquelles nous aspirons ». Ça paraît quand même curieux, cette façon de communiquer.
Il s'adresse aux fans quand même, c'est quelque chose qui est très maîtrisé. Faut pas dire les gens ne tweetent pas à tort et à travers n'importe comment. Il y a juste un petit coup de gueule de Lewis Hamilton et c'est quand même assez feutré. Mais dans son référentiel, où il est toujours en retenue, ça veut quand même dire
toujours
beaucoup.
Toujours très corporate voilà. Habituellement.
Mais moi, je me dis qu'ils ont un petit peu peur par rapport à leur base de fans. Qu'il y ait une fuite, je dirais, que les gens se retournent vers autre chose parce qu'ils ont découvert ce sport à travers le duel. Alors bon, on veut le redire une nouvelle fois, Drive to Survive,
oui.
qui a drainé beaucoup de
sur
nouveaux
Netflix.
Fans. Donc l'opposition
Hamilton-Verstappen,
voilà,
c'est clair.
Tout à fait,
c'est
Red Bull, Mercedes avec au milieu de temps en temps Ferrari. Et puis là, en fait, ils sont en train de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre toute cette valeur qu'on a construite, je dirais, et est-ce que ces gens-là ne vont pas cesser de nous aimer? C'est un petit peu quelque part ça, il y a une petite crainte là-dessus, en disant, on continue de travailler, on vous demande d'être encore patient. Et c'est un petit peu nouveau chez Mercedes, alors que
Ferrari
fait ça très très bien depuis
ils ont des moins, années. Chez Mercedes, ils ont moins d'expérience des échecs, peut-être.
Mais ça ressemble un petit peu à ça. Et je dirais que par certains côtés, on pourrait peut-être en venir à la situation de 2012-2013, où ça ne marchait pas très bien, et où il y avait le big boss de Daimler qui avait dit « Attention, parce que l'an prochain, si ça, ferme, si ça ne marche pas, on ferme. »
On tire le rideau, alors, c'est clair.
Moi, je voyais Mercedes un engagement en Formule 1 jusqu'à 2025, c'est-à-dire le terme des accords Concorde. Ils se sont inscrits sur la liste des motoristes à partir de 2026, mais je dirais qu'ils ont l'habitude de se remettre en question. Ils veulent être en Formule 1 pour gagner, pour de bonnes raisons, pour, je dirais, faire pour le rayonnement de la marque. Et là, on les sent un petit peu sur le fil du rasoir.
Alors, deux choses. D'abord, la première, on va revenir, tu as employé le mot de fuite, et notamment des fans. On va parler d'ici quelques minutes de fuite des cerveaux, déjà, chez Mercedes, et qui a été entamée il y a quelques temps. D'abord, je voudrais revenir sur cette phrase de Lewis Hamilton. Je disais qu'il avait toujours été très, très corporate. Et ben moi, je vais te dire, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé. Alors là, je parle un peu plus aux fans de moto et de MotoGP avec Valentino Rossi et Michelin. On remonte à 2007. Valentino Rossi est chez Yamaha avec des pneus Michelin et il affronte Casey Stoner, l'Australien, qui est chez Ducati avec des pneus Bridgestone. Et au fur et à mesure de la saison, ça avait déjà commencé à monter depuis quelques temps chez Bridgestone, on voit que le rapport de force est en train de basculer en faveur des pneus japonais. Et Valentino Rossi, qui avait été très très solidaire, d'un seul coup s'est retourné en disant « Bon, bah maintenant, il faut qu'on passe en Bridgestone. » Et l'année suivante, Yamaha était passé avec des pneus Bridgestone. Tout ça pour dire que ce genre de grands champions, ils ont quand même une volonté très très ferme, ils ne changent pas d'avis toutes les 4 matins, et que là, si on a véritablement un revirement de Lewis Hamilton, c'est pas parce qu'il s'est levé de mauvaise humeur, c'est clairement, il y a un changement d'état d'esprit, et ça peut être très très dangereux pour Mercedes.
Alors, il s'adresse quand même, on va le dire, à un petit groupe de gens, c'est la cellule technique, c'est-à-dire que ça ne remet pas en question l'engagement des gens au quotidien dans les deux usines, hein, à Brackley, et à Brixworth, l'antenne moteur, mais simplement, effectivement, sur le design même, sur la décision de garder ses pontons, je crois que là, maintenant, c'est avéré, c'est pas bon, et lui, il avait peut-être pas envie de voir ça sur sa voiture de cette année, et d'ailleurs, je te rappelle aussi les propos qu'il avait eus en fin de saison dernière, j'ai hâte de ne plus piloter cette chose.
Eh oui.
En parlant de sa voiture.
C'est ça.
Et j'ai l'impression qu'on pourrait reprendre ces propos-là au début de saison.
Et moi, je me demande s'il n'y a pas eu effectivement une décision, finalement, de reconduire cette Formule 1 avec son design qui est assez démentiel, sans les pontons, et ce choix s'est peut-être fait, c'est ce qu'on en déduit, à l'encontre de l'avis de Lewis Hamilton. Fuite des cerveaux maintenant, fuite de matière grise chez les flèches d'argent, parce que on a beaucoup parlé il y a quelques semaines du départ de celui qui était pressenti comme le successeur de Toto Wolff, James Wolff, qui est donc parti chez Williams, mais finalement ça n'est que le dernier départ de la matière grise de chez Mercedes vers d'autres équipes. Stéphane, on a fait quand même un petit recueil. Ça a commencé il y a un petit moment.
Ah ben là, ça ressemble à une véritable hémorragie quand même. Mi-2020, c'est Andy Cowell, le motoriste miraculeux, hein, vraiment de l'ère hybride, des 7 titres consécutifs de champion du monde qui s'en va. Alors il s'en va mi-2020, il reste consultant 6 mois, puis après il quitte complètement le domaine de la Formule 1, parce qu'il a dit quand même qu'il ne voudrait pas travailler pour une autre équipe.
Donc, on l'avait annoncé un moment voilà, chez Red Bull, et finalement non.
Tout à fait, donc il était parti, donc déjà, mauvais coup. Et puis, ça suit, un an plus tard, c'est vraiment là, la fuite des cerveaux, mais en masse, à cause du recrutement de Red Bull qui a besoin de constituer une antenne moteur à Hamilton Keynes. Et il y a 15 motoristes de haut vol qui s'en vont directement chez Red Bull. C'est vrai que là, c'est un gros coup dur quand même pour Mercedes, même si après, on n'a pas senti qu'il y avait un flottement en termes de fiabilité, mais tu remarqueras, Gilles, que le moteur Mercedes était encore à cette époque la référence.
C'est ce que j'allais dire.
On parle du Honda, on parle du Ferrari, le Renault est très bien aussi.
Voilà. Ça n'est plus l'atout de la Mercedes,
non,
le moteur,
tout à fait,
clairement.
C'est ça, ils ont perdu encore quelque chose à ce niveau-là. Et puis, octobre 2021, le départ le plus important finalement quand même, c'est James Allison qui annonce sa mise en retrait dès le mois d'avril 2021 en disant « moi je prends du recul, je ne suis plus directeur technique, je vais être chef du bureau technique pour suivre un petit peu ce qui se passe, et puis après, je m'en vais. Donc, il fait 6 mois encore en tant que consultant, un petit peu comme Andy Cowell, c'est un petit peu ça. Et quelque part, il est quand même le père de la voiture de 2022 qui était ratée.
Oui.
On va dire qu'il en a quand même la paternité.
Mais voilà. Laquelle ? Celle avec les pontons ou celle sans les pontons ?
Sans les pontons.
C'est là que c'est un peu compliqué.
C'est cette voiture qu'il a sortie sans les pontons, globalement.
Rappelle-toi que sur les premiers essais, il y avait eu des pontons sur cette Mercedes.
Oui.
Je ne suis pas sûr finalement que James Allison, il était parti dans cette idée-là.
Et puis là, il est parti pour quelque chose de complètement différent. Son attirance pour la voile, qu'il avait eu d'ailleurs aussi, c'est assez étrange.
Adrian Newey.
Voilà, dans une période un petit peu de creux chez Red Bull pour se rafraîchir un petit peu les idées,
on va dire
ça comme ça, c'est-à-dire partir peut-être pour mieux revenir après, mais lui il est parvenu et il est parti sur le défi britannique de la Coupe de l'Amérique qui aura lieu l'an prochain, donc ça me paraît difficile. On a parlé éventuellement, Toto Wolff essaie de le faire revenir clairement, mais là à un an à peu près là, de la Coupe de l'Amérique, je ne le vois pas revenir en Formule 1, je ne sais pas.
Mais bon, donc, bref, James Allison est parti faire des bateaux, Mercedes cool.
Donc, chef motoriste parti, directeur technique, et puis, novembre 2021, Éric Blondin, le chef aéro, qui s'en va chez Aston Martin, la voiture qui marche maintenant à peu près comme
elle a l'air d'être pas mal, cette
Aston. Donc, après des années d'expérience quand même chez Red Bull, chez Ferrari, il était depuis 10 ans aussi chez Mercedes, c'est quand même une perte sèche, il n'y a pas d'histoire. Et puis, dernièrement, janvier 2023, donc James Bowles, parti pour être directeur d'équipe, team principal,
Chez Williams.
Chez Williams, le grand patron, donc ça se refuse pas de toute façon, mais quelque chose me dit peut-être qu'il attendait la place de Toto Wolff, qui a décidé de rester autant que Lewis Hamilton voudra piloter chez Mercedes, parce que c'était une demande de Lewis Hamilton qu'il reste en place, donc il avait signé, il en a repris pour 3 ans globalement, là jusqu'à la fin de l'année, en attendant de voir, mais James Wolff sera peut-être un peu en couveuse chez Williams, en train d'apprendre aussi le métier, et puis c'est peut-être le futur successeur, on verra bien, de Toto Wolff. En tous les cas, maintenant, il est parti, il ne fait plus les stratégies de course, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué, on verra, ils sont quand même assez carrés de ce point de vue-là chez Mercedes, on observera vraiment sur des stratégies un petit peu tendues, ce qui se passera, et puis, il y a des choses quand même un petit peu bizarres, juste avant le premier Grand Prix, on nous annonce aussi que George Russell change d'ingénieur de course. Après un an simplement avec Riccardo Musconi, qui était l'ancien ingénieur de Valtteri Bottas et qui était surtout l'ingénieur data de Lewis Hamilton, donc qui connaissait toute l'histoire, la façon de régler qu'a Lewis Hamilton, de son approche. Et là, George Russell, ça ressemble vraiment à une décision de sa part de dire « Je ne veux plus travailler avec lui, mettez-moi quelqu'un d'autre. » Et c'est Marcus Dudley qui était aussi l'analyste en fait, dans l'équipe, responsable, qui était remplaçant de Bono, l'ingénieur d'Hamilton, qui prend maintenant en charge la voiture de Russell. Mais c'est un peu bizarre parce que ça change beaucoup. En fait.
Ouais,
globalement,
c'est
un modèle
bien,
de stabilité et maintenant, c'est devenu un peu les sables mouvants.
J'allais continuer ma métaphore sur finalement les tremblements de terre, mais on voit que les plaques bougent en ce moment chez Mercedes. Et pour conclure le sujet, Stéphane, moi j'ai envie d'avoir ton avis. Est-ce que tout ça peut aboutir finalement au big one, c'est-à-dire le départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes ? Est-ce que tu y crois ?
Non, j'y crois pas une seconde. Mais alors, je te dirais que dans cette histoire, il y en a qu'un qui parle pas, c'est Mike Elliott, qui est le directeur technique qui a fait les 2 dernières voitures.
Bah oui,
c'est le successeur.
C'est peut-être pour ça qu'il parle pas.
Andrew Chauvelin, qui est donc l'ingénieur en chef sur les circuits, qui parle. Toto Wolff. Et Mike Elliott se fait quand même assez discret. Je dirais qu'il n'est pas vraiment là dans le bankable en ce moment chez Mercedes.
Clair.
Et c'est un petit peu lui quand même que vise Lewis Hamilton en disant qu'il faut faire quelque chose. On nous a annoncé quand même, Andrew Chauvelin nous a annoncé des changements visibles, radicaux, dans les prochains Grands Prix. Ça va mettre 4-5 Grands Prix quand même.
Autrement dit, ça veut dire quoi ? On va avoir une Mercedes avec des pontons ?
Je pense, et il y a beaucoup de choses à changer, c'est-à-dire les suspensions, tout travaille de façon dynamique, l'aéro et la mécanique, et il faut changer aussi certainement la suspension arrière. Il a dit que ça allait prendre du temps. Là, ils ont dit qu'autour de ces pontons minimalistes, l'air circule bien. Il n'y a pas un loup spécifique parce que...
C'est pour ça qu'on a fait ces pontons-là, c'est pour libérer la circulation de l'air.
Le fond plat a été relevé de 15 mm, c'est Mercedes qui a obtenu ça de la part de la FIA. Très bien, là maintenant il n'y a plus de rebond, donc ça c'est réglé. Et grosso modo, ce qu'on nous dit chez Mercedes, c'est que cette solution est compétitive, elle est censée, mais elle n'est pas assez compétitive par rapport à ce qui existe chez Red Bull, chez Ferrari. D'ailleurs, chez Red Bull, on dit le concept aéro de Mercedes, on ne comprend pas trop.
Bon. Ça, oui. Alors, les chronos non plus.
Tout à fait. Et donc, Andrew Shovlin dit maintenant, il ne s'agit pas de gagner 3 dixièmes, il faut gagner une seconde.
Non, c'est clair.
Alors là,
c'est clair.
C'est gros challenge.
Ah oui, 50 secondes de retard à Bahreïn, ça fait une seconde.
Et quand tu vois que Red Bull annonce déjà des évolutions, deux évolutions sur les Grands Prix numéro 2 et 4, donc le numéro 2, c'est
l'Arabie Saoudite,
et le 4, ça sera Bakou, Azerbaïdjan. Donc, ça veut dire que les autres avancent, hein, et qu'il faut, il va falloir produire quelque chose de spectaculaire. Ça ressemblera un petit peu à un coup de poker, on va dire. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait une lassitude, il y a une déception chez Lewis Hamilton qui le pousse à partir. Il a dit, c'est pas dans cette situation-là, c'est pas parce que je fais une mauvaise saison que je vais décider de partir. Il est en fin de contrat, mais c'est pour aller piloter chez qui ? Une Ferrari biplace avec Charles Leclerc, je vois pas bien. Hein. Donc, tous les gros baquets sont pris. De toute façon, soit c'est la retraite, soit il continue. Et je pense que là, l'avoir perdu sur le fil, sur une défaillance, sur un fail mais gigantesque de la FIA, son huitième titre à Abu Dhabi, c'est ce qui le
hante,
voilà, à retourner au travail et au charbon, voilà, tous les jours.
La quatrième épreuve de la saison, juste pour terminer, pour moi, c'est le Grand Prix d'Espagne, voilà, à Barcelone.
Tout à fait.
Petit.
Donc c'était Bakou, donc c'est peut-être le cinquième.
Ou le sixième d'ailleurs. Le sixième. Mais bon, bref, voilà.
Ce serait plutôt le Grand Prix d'Espagne.
Oui, mais oui, ça veut dire que chez Red Bull, on est prêt à encore accélérer le rythme, et ça accroît encore les inquiétudes chez Mercedes. Là, il va clairement falloir qu'en Arabie Saoudite, il se passe quelque chose et que les résultats soient nettement meilleurs à Jeddah.
Oui, parce que alors, j'en viens à Lewis Hamilton. Tu penses qu'il peut partir si ça ne fonctionne pas bien rapidement ?
Ouais, moi, je pense que oui, clairement. Et on l'a déjà vu dans le passé. Je pense à Ferrari qui est capable de payer un pilote pour s'en débarrasser. C'était un Finlandais qui avait été champion du monde et on lui a fait un chèque en lui disant « Kimi, va voir en rallye si l'herbe est plus verte », qu'il avait fait dardard parce qu'il avait pris un gros chèque. Si vous avez Lewis Hamilton qui frappe à la porte et que vous vous appelez Ferrari, vous ne pouvez pas refuser. Et en plus, vous renvoyez un petit peu la monnaie de la pièce à Mercedes. Rappelez-vous, Ferrari, c'était un accident industriel pour Ferrari de s'être fait subtiliser Michael Schumacher, qui était l'ambassadeur de Ferrari et qui finalement avait repris du service chez Mercedes. C'est pas le scénario auquel je crois le plus, pour être honnête, mais c'est pas impossible, et je vous rappelle qu'on est en période de négociation entre Mercedes et Lewis Hamilton, donc
ça
forcément...
Ça fait 6 mois.
Oui, ça fait 6 mois, c'est à peu près 365 jours par an, de toute façon.
Ça devait être une formalité au départ, effectivement, ça traîne un petit peu. Alors, petit motif d'espoir, on va dire, la méthode Coué, c'est ce qui fonctionne peut-être encore le mieux chez Mercedes. Toto Wolff a dit, la caractéristique du premier circuit de la saison, c'était sollicitation des pneus arrière, et on n'est pas du tout bon là-dedans, ça c'est clair. Et à Jeddah, deuxième piste de la saison, en Arabie Saoudite, là c'est plutôt les pneus avant qui sont facteurs d'usure, ça devrait aller mieux, donc ils s'attendent à être moins loin, on va dire, on verra.
Ouais, on verra ça pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors maintenant, on a un invité pour ce deuxième tome des Fous du Volant. Aujourd'hui, on va prendre la direction du bureau de Thibaut de Mérindol, qui est donc
à Fontenay-le-Comte.
Exactement, ouais. Qui est donc le patron de l'équipe R-Race, l'équipe française, RSGP, pardon, et qui est donc une équipe française et qui a vu passer dans ses rangs, c'est assez incroyable. Alors, outre Pierre Gasly, ça paraît presque anodin, mais les trois garçon qui débute cette saison en Formule 1, Nick De Vries, Logan Sargeant et puis surtout évidemment Oscar Piastri qui est quand même la curiosité de ce plateau 2023, compte tenu de son talent, surtout compte tenu aussi de ce qui s'était passé avec Alpine. Et ben écoute, on prend la direction du bureau de Thibaut de Mérindol. Merci beaucoup de nous recevoir, Thibaut. On va parler avec vous. Vous êtes le patron d'une équipe qui s'appelle R-Race GP. Et il se trouve que vous connaissez quand même une part importante de cette grille de départ de Formule 1 2023. Puisqu'il y a quand même 4-5 pilotes même qui ont roulé chez vous. sans parler des deux Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, mais on a aussi Nyck de Vries, Logan Sargeant, et on va commencer par celui qui aiguise le plus notre appétit, c'est Oscar Piastri. Ils sont tous passés par chez vous.
Effectivement, on a eu la chance de collaborer dans les catégories junior monoplace Formule Renault ou Formule régionale by Alpine avec 5 des pilotes qui sont actuellement en Formule 1. Vous les avez cités dans l'ordre: Gasly, Nyck de Vries, Ocon, Sargeant et Oscar Piastri. Oui.
Est-ce que Piastri est celui qui vous a le plus impressionné? Il n'avait pas été remarqué pour ses résultats en karting. Il commence doucement en Formule 4 en Angleterre en 2017, de l'Eurocup, mais c'est assez moyen chez Ardennes, ce qui est un petit peu surprenant en 2018. Et puis là, quand même, vous dénichez son talent qui explose littéralement à partir de 2019. Un titre en Formule Renault Eurocup pour sa deuxième saison. Et puis après, deux titres en tant que rookie en F3 et en F2.
Ouais, un parcours assez exceptionnel à partir de la Formule Renault Eurocup 2019. C'est vrai que parmi les pilotes qu'on a cités tout à l'heure, Piastri est peut-être celui qu'on a le moins vu venir. Vous le soulignez très bien. Nous, on a eu la chance de pouvoir le tester à l'occasion d'essais hivernaux qui nous permettent d'évaluer les pilotes d'une saison à l'autre avant de trouver des accords et de les signer pour la saison suivante. Et on a eu la chance de pouvoir le tester en novembre 2018. Et c'est vrai que ça a été une grande révélation à ce moment-là. Il sortait d'une première année en Formule Renault qui avait été moyenne, mais rien d'enthousiasmant, hormis deux ou trois podiums de mémoire. Il avait quand même été champion rookie en F4 la saison précédente, en F4 anglaise. Mais c'est vrai que quand on a eu l'occasion de faire ce test à Barcelone, fin octobre ou début novembre, ça a été une révélation, effectivement.
C'est quoi le trait de caractère marquant du jeune Australien, ce que vous retenez, vous?
Alors, pour être un champion de haut niveau comme ça, il y a beaucoup de qualités qui sont requises, évidemment. Les 5 pilotes dont on a parlé tout à l'heure les ont tous plus ou moins, on va dire. Je pense qu'Oscar, il se résume en étant la synthèse de toutes les qualités. C'est-à-dire qu'il est excellentissime dans aucun des paramètres ou aucun des règles du jeu, mais par contre, il est bon partout. Donc, voilà, c'est un pilote, je pense, très complet, très intelligent, qui en plus se construit parce qu'il a cette capacité à apprendre, à collaborer de manière très étroite avec les équipes, donc à engranger de l'information. Et il sait très bien se faire évoluer lui-même et à progresser. On l'a encore vu sa dernière année d'F2, parce que je crois que j'avais eu l'occasion d'en parler, mais à l'époque de la Formule Renault et même de sa saison F3, son point faible, c'était son tour qualif, sa performance sur un tour. D'ailleurs, je crois qu'il ne fait pas de pole quand il gagne le championnat F3 et FIA en 2020. Et il gagne le championnat F3 et FIA, surtout sur sa gestion intelligente des courses et sur son racecraft. Et à l'inverse, on a vu qu'en F2, en 2021, il a fait un vrai step en avant sur sa performance sur un tour. Donc, tel que je le connais, il a dû travailler dur là-dessus avec son équipe Préma. Et c'est, voilà, ça démontre sa capacité à évoluer et à comprendre où il peut progresser.
Comment est-ce que vous avez trouvé son week-end chez McLaren? Difficile à juger, hein. Il a fait 13 tours. Marc Weber disait, pour un rookie,
c'était compliqué.
Le premier test, c'est finalement en dehors de la piste. C'est avec les médias, c'est savoir leur parler. Et on a découvert, enfin, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais quelqu'un qui parle très bien, qui est aussi très calme dans ses attitudes face aux situations compliquées, qui résiste très bien à la pression, d'après son ingénieur Tom Stallard. C'est tout ça maintenant qui va se mettre en place pour cette année d'apprentissage.
Oui, bah, effectivement, Oscar est quelqu'un de très calme, de très posé, de très réfléchi. Donc, ce que vous avez pu percevoir au travers des médias et de son interaction avec la F1 et tout ce qui entoure la F1, on le constatait déjà en fait en 2019. Et comme je le disais tout à l'heure, Oscar est un pilote qui va évoluer. Certains pilotes ont beaucoup de talent, ils arrivent, mais après, ils n'ont pas forcément les moyens d'évolution. Oscar aura, c'est certain, capacité à évoluer, à comprendre tout l'environnement F1. Et avec la complexité qu'est aujourd'hui une équipe de F1 et ce que, la complexité, la stratégie, conduire ses voitures, la partie média, etc., je suis sûr qu'Oscar va très bien s'en sortir.
Et le fait d'arriver dans une équipe comme McLaren, qu'on sent quand même un petit peu en difficulté, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut finalement lui servir? Parce que arriver dans une équipe où il y a tout de suite de la performance, ça met une pression aussi déjà vis-à-vis de son coéquipier. Comment est-ce qu'on peut prendre positivement le contexte un petit peu difficile, il ne faut pas se le cacher, de chez McLaren en ce moment pour Oscar?
Ah, je pense qu'il préférerait quand même être dans l'Aston Martin aujourd'hui que dans la McLaren. C'est quand même plus facile. Maintenant, c'est sûr que la pression, elle est sur Lando aujourd'hui. Oscar, il n'a pas grand-chose à perdre. De toute façon, voilà, si la voiture est mal née, on va voir comment. Attention, le circuit était spécifique. Hein, on va voir comment ça évolue quand on va arriver sur des circuits plus classiques. Mais bon, McLaren ne semble pas être en grande forme. Voilà, Piastri, il faut qu'il se concentre sur son apprentissage. Son benchmark, c'est Lando Norris. Je pense que c'est l'un des meilleurs du paddock, de toute façon. Donc, je ne pense pas qu'il ait une pression particulière. Cela dit, c'est quand même toujours mieux de performer. Hein. Donc, encore une fois, je pense qu'il préférerait être chez Aston que chez McLaren.
On vous avait déjà eu à certaines occasions pour parler d'Oscar Piastri sur Eurosport.fr. Vous nous aviez parlé globalement d'un pilote analytique. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir un ingénieur comme Tom Stallard chez McLaren, l'ingénieur historique des années Button chez McLaren, c'est un avantage? Il aimait beaucoup développer tout ce qui est aspect réglage chez vous et dans ses équipes suivantes qui étaient très très bien référencées. Mais dans une écurie comme McLaren et dans des écuries souvent anglaises, on arrive avec des réglages qu'on donne, qu'on livre clé en main à un pilote et c'est un petit peu à lui de s'adapter. Et il n'a pas trop la parole au départ pour s'adapter, je dirais, ou demander des choses spécifiques. On fait confiance au fur et à mesure. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de ce côté-là?
Bon, je pense qu'il va rapidement obtenir la confiance de son équipe, si ce n'est pas déjà fait. Et je pense que de toute façon, toutes les équipes ont tout intérêt à ce que les pilotes participent de manière active au développement de la voiture. Alors d'autant plus là, quand l'équipe se retrouve dans une situation a priori un peu délicate techniquement, ils vont devoir s'appuyer sur les deux pilotes pour faire évoluer la voiture. Et au contraire, je pense qu'Oscar va pouvoir démontrer toutes ses capacités à ce niveau-là, et qui sera un atout pour McLaren. Je compte sur... Enfin, je n'ai pas de conseils à leur donner, mais si j'étais eux, je m'appuierais sur le feedback des deux pilotes. Et, je ne m'arrêterai pas au statut de rookie. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, honnêtement, mais moi, je ne m'arrêterai pas au statut de rookie en disant, bon, bah, tu conduis la voiture, tu n'as pas ton mot à dire. Ça m'étonnerait que ça se passe comme ça quand même.
On aimerait bien avoir aussi votre opinion sur deux autres garçons qui ont débuté cette saison. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas de Nyck de Vries. Hein. Il avait déjà fait un Grand Prix l'année dernière en remplacement d'Alexander Albon. Quel est votre regard, Nyck de Vries? Il a été donc devancé par son coéquipier Yuki Tsunoda à l'arrivée du premier Grand Prix de la saison chez AlphaTauri. Qu'est-ce que vous en pensez du Néerlandais?
Et est-ce que vous avez entendu aussi les propos d'Helmut Marko qui lui a mis carrément la pression? Il a dit il a 28 ans, il est champion du monde de Formule E, il a connu des grandes équipes, Mercedes en Formule E, il a été titré en F2, etc. S'il arrive, c'est pour donner des résultats et tout de suite, sans délai. Là, c'est grosse pression.
Ouais, bon, on connaît le docteur, hein, il sait mettre la pression là où il faut, quand il faut. Oui, un peu déçu, oui, déçu même de la performance de Nick ce week-end. Encore une fois, il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives après seulement un Grand Prix. Hein. Mais c'est sûr qu'il a l'expérience. C'est un pilote qui est extrêmement professionnel. Nous, on l'a fait rouler en 2012. Quand il a commencé à rouler, il n'avait même pas encore 15 ans. Il était déjà extrêmement professionnel. C'est un pilote très structuré, très organisé, extrêmement travailleur.
C'est l'école McLaren.
Oui.
Parce qu'il était à l'espoir du Vivier McLaren à cette époque.
Ouais. Ah bah c'était le pilote premier de Ron Dennis. Bah oui, décevant. Honnêtement, je pensais qu'il rivaliserait tout de suite avec Tsunoda. Bon, à voir comment ça évolue.
Et un petit mot aussi sur Logan Sargeant. Là, pour le coup, chez Williams, c'était plutôt. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
Ouais, ce qu'il a super. Fait. Super. Ouais, Logan, pilote très instinctif, très rapide naturellement. Dès le karting, ça se voyait. Enfin, voilà, c'est un pilote à l'aise, sans complexe, décontracté. J'ai envie de dire à l'américaine un peu, mais. Il l'a démontré là. On voit qu'il prend les choses de manière assez détendue. Je ne l'ai pas senti stressé à l'occasion des quelques interviews que j'ai pu voir. Et ouais, super perf en qualif, à seulement de mémoire 2 dixièmes d'Albon, je crois. Albon qui est quand même une référence, hein, je pense que c'est pas. Donc, surpris dans le bon sens.
D'accord.
À son sujet.
Comment est-ce que vous avez vécu ce qu'on a appelé l'affaire Piastri, tout simplement, hein, c'est-à-dire cette volte-face l'année dernière. Je rappelle un petit peu un contexte qui peut être important. Fin 2019, donc, il est champion en Formule 2 et on lui annonce que c'est 1 million d'euros pour le baquet en Formule 3 chez Préma la saison suivante. Mmh. Il touche 200 000 euros de bourse pour son titre en Formule Renault. Il a toujours le sponsor de son père pour un complément de budget, mais il manque 500 000 euros. Et là, il pense que tout va s'arrêter et c'est Marc Weber qui trouve l'argent et qui lui permet de continuer. Est-ce que, quelque part, il ne s'est pas obligé de suivre Marc Weber dans son point de vue, de dire c'est pas assez bien ce que propose Alpine, il faut aller voir du côté de McLaren qui nous veut vraiment.
Alors moi, j'ai pas tous les éléments de l'enquête. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'effectivement, Alpine était dans un moment d'hésitation où de toute façon, se dirigeait plus, au moins à court terme, pour garder Alonso, et qu'il faut comprendre aussi le point de vue d'Oscar à ce moment-là, qui a une opportunité de volant titulaire et que voilà, qui a envie de faire des courses. Donc, moi, je ne lui jette pas la pierre. Mais honnêtement, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Je ne sais pas ce qui avait été dit. Signé, c'est quelque chose, mais surtout, qu'est-ce qui avait été dit avec Alpine, entre Alpine et Oscar. Je ne suis pas suffisamment au fait des discussions et des avancées pour savoir s'il a été correct ou pas correct dans la manœuvre.
Ouais,
bon, après. Et en tout cas, d'un côté, il y avait une équipe qui lui proposait un volant titulaire. D'un autre côté, il y avait une équipe qui, a priori, ne lui proposait pas de volant titulaire. Ça reste un pilote de course, pas un pilote
d'essai. À part chez Williams, mais il a refusé l'offre. Vous aviez décrit un environnement et une famille de gens très bien éduqués, vraiment, lors de votre collaboration avec Oscar Piastri en 2019. Et là, on lui a dit qu'il était carrément déloyal envers Alpine. Apparemment, ça l'a quand même touché. Ils ont mis les choses à plat avec Ricciardo. Weber a appelé Ricciardo pour s'excuser de lui avoir hacké le volant. Est-ce que pour lui, ça, c'est quelque chose d'important aussi ce qui se passe, parce qu'il arrive un petit peu avec, c'est pas une mauvaise réputation, mais avec un gros dossier derrière lui qu'il va falloir aussi un petit peu évacuer assez rapidement. Ça va peut-être être un petit peu difficile si les résultats ne viennent pas tout de suite. Il est armé pour résister à cette pression autour de son nom.
Oui, 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 je pense, parce qu'encore une fois, c'est un garçon lucide, posé, qui ne va pas être dans l'émotionnel, donc il va savoir tout à fait gérer cette pression-là. Ensuite, effectivement, je confirme que L'environnement d'Oscar est un environnement très, très sain, très correct. C'est pour ça que j'ai du mal à croire quand même qu'ils aient agi comme des bandits.
Merci en tout cas de nous avoir donné votre point de vue sur les débutants de cette saison. C'est quoi le programme de votre équipe RSGP pour 2023?
Donc 2023, on vient de finir notre campagne au Middle East. On a fait championnat F4 et Formule Régionale Middle East. Et là, on va attaquer maintenant les championnats, nos main series, qui sont les championnats européens. Donc la FRECA, la Formula Régionale by Alpine, championnat d'Europe, et le championnat d'Italie d'F4.
Eh ben, on vous souhaite une bonne saison. Thibaut de Méradol, merci
Merci
beaucoup
beaucoup.
d'avoir été en visite dans les Fous du
Au
Volant.
plaisir.
Et à très bientôt.
Merci beaucoup.
À très bientôt,
Bonne
merci.
journée.
Au revoir.
Le dernier sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui, on va sortir un petit peu du cadre de la Formule 1, mais c'est un événement, je suis désolé. Le week-end dernier a eu lieu ce qu'on appelle le prologue en championnat du monde d'endurance. C'est l'équivalent des essais de pré-saison qui avaient eu lieu à Bahreïn pour la Formule 1. Cette fois, c'est en Floride, sur le circuit de Sebring. Et avec, je parlais d'événements parce que c'est le retour de beaucoup de constructeurs en championnat du monde d'endurance, le retour de Porsche. Peugeot avait déjà fait son retour courant 2022. C'est aussi évidemment le retour de Cadillac, mais l'équipe qu'on attend, c'est Ferrari qui a beaucoup fait rouler sa 499P et qui a été donc là, cette fois, confronté à ses adversaires, évidemment au Toyota. Juste un tout petit point, Stéphane, sur finalement les chronos. Ce sont les deux Toyota qui ont réalisé les deux meilleurs temps, avec seulement 8 millièmes d'écart entre les deux équipages. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est qu'il y a 5 marques: Toyota, Cadillac, Porsche, Ferrari et Peugeot, qui se tiennent en un tout petit peu plus d'une seconde. Ça, quand même, c'est ultra tentant.
Ouais, c'est canon. Globalement, Toyota reste la référence, mais je ne m'attendais pas à voir autant de challengers aussi près, tout de suite, dans le coup. Ça veut vraiment dire que là, comme on peut dire, ça nous vend le championnat d'une
ah
façon
oui,
absolument fantastique.
Alors, faut rappeler que en endurance, et ce qu'il n'y a pas en Formule 1, il y a ce qu'on appelle une balance de performance. Autrement dit, on essaye d'égaliser les performances des autos. C'est un système très compliqué, peut-être qu'on vous en parlera, mais honnêtement, c'est assez fastidieux.
Parce que globalement, il y a deux façons de concevoir une voiture, et qu'on veut essayer d'équilibrer ces deux façons-là, LMH et LMDH.
Voilà.
Il y a des variantes, et on essaie de rapprocher ces solutions techniques.
Et puis, il y a aussi des systèmes hybrides, des systèmes qui ne sont pas voilà. hybrides, des voitures, des tailles de roues qui sont différentes. Donc, à chaque fois, il y a des coefficients d'appui aérodynamique qu'on essaye d'égaliser. C'est très compliqué, mais donc...
Ça passe surtout par des questions de poids.
Exact, voilà. de voilà, poids et de réduction de puissance, notamment. Donc, voilà, le côté chrono, eh ben, c'est qu'on a quand même 5 constructeurs qui se tiennent en un peu plus d'une seconde. Maintenant, nous, on a choisi aujourd'hui, avec Stéphane, de s'intéresser un petit peu plus aux équipages, parce que qui dit Toyota, Porsche, Ferrari, Peugeot, Cadillac, dit pilote de pointe. Et on a quand même quelques doutes sur certains équipages. On va en parler. On a fait un classement par étoile, Stéphane.
Oui, alors...
Toi qui es un grand habitué des palaces, tu mets des étoiles.
Oui, on a donné 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles globalement aux 7 marques et leurs équipages. Mais voilà, on disait que la Toyota restait la référence, et les équipages sont juste incroyables aussi chez Toyota. On en a deux, Conway Kobayashi Lopez et Buemi Hartley Hirakawa. Ce sont que des vainqueurs des 24 heures du Mans. Sur la numéro 7, il y a 4 titres au Mans, et sur la numéro 8, il y en a 8.
Ah ouais.
Tout simplement. Alors, c'est absolument impressionnant. Là, c'est l'équipe de rêve, je dirais, avec deux équipages, et ça sera l'équipe à battre. Et bon, je suis un petit peu surpris, on en parlera après, que les nouveaux entrants soient pas allés chercher des pilotes un petit peu plus clinquants.
Mais en fait, c'est ce qui nous a donné envie de faire ce classement des équipages. Je mets quand même un tout petit avantage à la numéro 8, Buemi Hartley Hirakawa. C'est pour moi un tout petit peu plus rapide, ouais, intrinsèquement, que Conway Kobayashi Lopez, mais ça se joue vraiment à une fraction de points. Ensuite, donc, les deux équipages Toyota, pour nous, sont à 5 étoiles. Pour nous, ce sont les deux meilleurs équipages. Ensuite, il va y avoir les équipages auxquels on a attribué 4 étoiles. Et là, ils sont quand même plusieurs, à commencer par les deux équipages Peugeot, Stéphane, avec d'un côté Paul Di Resta, Michael Jensen, Jean-Éric Vergne, qui piloteront la 93, et Loïc Duval, Gustavo Meneses et Nico Müller pour la 94.
Je trouve que ça a vraiment de l'allure. Et souviens-toi d'ailleurs, ils avaient pris aussi Kevin Magnussen à la base. Donc ça, c'était encore un bon choix. Et ils avaient ferré quand même des bons pilotes. Et alors, bon, c'est le petit côté cocardier qui parle, mais on a deux pilotes français, un dans chaque équipage d'ailleurs. Ça veut dire que si Peugeot gagne...
Tu sais pourquoi il y a un Français dans chaque équipage? Parce que moi, honnêtement, j'aurais quand même bien voulu voir Loïc Duval, Jean-Éric Vergne et Paul Di Resta ensemble sur la même voiture.
Oui, forcément.
Sauf que... Dans les souvenirs de Peugeot, il y a une sorte de brûlure qui est cette victoire en 2009 où la seule Peugeot où il n'y avait pas de Français à son volant s'est imposée. Et ça avait été terrible pour Peugeot qui n'avait pas pensé à cette éventualité. L'équipage qui s'était imposé était un petit peu mis de côté. Je ne sais plus quel était leur surnom, mais ce n'était pas très, très valorisant. Les vieux briskers, c'est ça. Et ils avaient fait un sacré numéro pour finalement s'imposer.
C'est ce que fait Toyota de toute façon. Ils mettent un pilote japonais dans chaque voiture. Et quand il y a Nakajima qui prend sa retraite, eh bien, ils ont Hirakawa qui est dans la manche et qui saute dans la voiture et qui gagne l'année dernière.
D'entrée de jeu.
Donc, effectivement, pour le retentissement, les besoins de notoriété de la marque, c'est vrai que là, tu parles tout de suite à ton public.
Ouais.
Donc, je trouve que ça a vraiment de l'allure. C'est bien. Moi, j'attends de voir ça avec impatience. Et puis, Loïc Duval, vainqueur des 24 Tours du Monde aussi. Bon, tout ça, c'est sérieux, c'est bien. Ça ne matche pas avec les équipages Toyota qui sont vraiment rodés, qui sortent de 4 titres mondiaux pilotes et constructeurs. Mais bon, déjà, on sent qu'ils montent en puissance.
Parmi les équipages qui ont 4 étoiles, à notre avis, il y a Porsche Penske avec Kevin Estre, André Lotterer et Lorenz Ventour. C'est pour moi, je vais te dire, de la même manière que je mets un petit plus du côté de la Toyota numéro 8, je pense que dans ceux qui ont 4 étoiles, c'est fort et c'est pour moi un petit peu au-dessus par rapport aux équipages Peugeot. À égalité avec un autre équipage, cette fois chez Cadillac, Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook. Là, il y a du très, très, très solide. Entre Bamber et Lotterer, là, il y a vraiment des pilotes qui sont exceptionnels.
Ouais. 3 fois vainqueur, Lotterer, des 24 Heures du Mans, Bamber 2 fois. Je suis assez étonné. Et puis, les chronos, de toute façon, les résultats des 24 Heures de Daytona, plus déjà le prologue de Sebring, montrent que la Cadillac, elle est prête. Hein. C'est absolument impressionnant.
Et attention, parce que là, on ne parle que des équipages qui vont faire le championnat du monde. On n'a pas ajouté les voitures supplémentaires qui viendront faire les 24 Heures du Mans. Par exemple, il y aura une troisième Porsche qui viendra rouler aux 24 Heures du Mans. Il y aura une deuxième Cadillac dans laquelle on va retrouver Sébastien Bourdais, notamment.
C'est officiel, mais on peut espérer... Dans cette logique,
ça travaille
déjà d'un bon résultat. Voilà, c'est ça. La voiture qui roule en IMSA, on devrait la voir au Mans. Donc,
il est sur la liste officielle des partants qui a été établie il y a quelques jours par la CO. Hein, donc, a priori, il sera là. Voilà, ça, c'est des équipages très, très solides. Et puis, il y a la Glickenhaus avec un autre ancien vainqueur français, d'ailleurs, Romain Dumas, associé à Olivier Plat et Ryan Briscoe. Bon, l'inconnu, c'est de savoir ce que vaut encore cette Glickenhaus qui n'est pas une voiture hybride, quelle place elle va avoir à jouer face...
Il n'y a pas de problème de fiabilité.
Ouais, écoute, face à une concurrence qui est quand même beaucoup plus importante que l'année dernière.
C'était un podium l'année dernière. Maintenant, comme tu dis, la concurrence, il y a une densité qui est tout autre. Mais c'est sympa de voir aussi deux pilotes français, parce qu'il y a Olivier Plat avec Romain Dumas dans cette voiture qui manque certainement de roulage encore, mais écoute, tout ça, ça va. Alors, ils n'ont pas de système.
Non, c'est pas une voiture hybride.
Voilà,
non,
tout à fait. Donc, c'est ça un petit peu le côté curieux. Mais bon, c'est un petit peu le facteur X maintenant de cette manche d'ouverture à Sebring.
Et alors, ensuite, on a les équipages à 3 étoiles. Je suis un petit peu embêté parce que...
On parlera de Ferrari à la fin.
Oui, oui. Parce que vous aurez noté qu'on n'a toujours pas évoqué les équipages Ferrari. L'autre équipage Porsche Penske avec Dean Cameron, Michael Christensen et le français Fred Makowiecki. Moi, je le vois pas loin des 4 étoiles, mais on l'a laissé à 3.
Et puis Fred qui a conduit tout le développement de la Porsche aussi. Ouais. Donc, il la connaît par cœur, cette voiture. Mais c'est vrai que le fait que ce soit trois débutants quand même au plus haut niveau dans la catégorie N, ça les met un petit peu en retrait. Mais là encore, je pense que sur Sebring et sur les courses suivantes et encore plus au Mans, on sera surpris du potentiel de certains pilotes. On les avait lus comme ça pour l'instant, mais on ne demande qu'à avoir des bonnes surprises.
Ouais, Christensen, Mako, c'est vraiment un équipage qui était absolument fabuleux chez les GT Pro. Et on peut imaginer qu'ils vont très très vite apprendre, qu'ils ont déjà appris très très vite comment piloter un proto. Donc voilà, c'est trois étoiles, mais on n'était pas loin des quatre.
Plus.
Voilà, exactement. Avant de parler de Ferrari, on va parler quand même d'un équipage où il y a un champion du monde de Formule 1, le retour de Jacques Villeneuve au Mans, chez Van Wall, avec un Français, Tom Dillmann. Alors, entre nous, Stéphane, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas proposé un volant dans une équipe qui est capable de gagner les 24 heures du Mans à Tom Dillmann. C'est pour moi un des scandales. Jacques Villeneuve au Mans, c'est toujours énorme.
Mais bon, 52 ans quand ouais. même, c'est ça le petit problème, on va dire. C'est un énorme défi. Ça ressemble un petit peu au rêve ultime de triple couronne. Il a été champion du monde de Formule 1, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Et s'il gagne les 24 heures du Mans, ça lui fera la triple couronne. Il n'y a qu'un pilote qui a réalisé ça, c'est Graham Hill dans l'histoire des sports mécaniques. Donc c'est ce qu'on lui souhaite, mais bon, c'est quand même une cote gigantesque.
Grosse cote, hein, quand même.
Surtout que cette voiture n'a pas de système hybride. Donc je ne sais pas quelles circonstances il faudrait pour qu'elle soit sur le devant de la scène au Mans. Grosse cote, voilà, et puis Guerrieri qui débute aussi. Mais bon, c'est toujours bien de voir des belles marques comme ça, enfin un nom évocateur dans de l'histoire de la Formule 1 aussi. Van Wall, ça parle un petit peu aux gens qui connaissent un petit peu la Formule 1 des années 50-60, mais en tous les cas, bon, bah c'est on verra ce que fait Jacques Villeneuve dans cette voiture.
Et on termine par Ferrari, voilà, les deux équipages Ferrari, qui eux aussi, alors pour Villeneuve, Guerrieri, Dillmann, on a mis trois étoiles, donc hein, comme pour Dean Cameron, Michael Christensen et Fred Makoviecki. Puis donc il y a aussi ces équipages, ces deux équipages Ferrari, où alors là, on a annoncé la couleur finalement très très vite hein, chez Ferrari en disant on prendra que des pilotes qui viennent de notre giron.
Ouais. Alors, on a un petit peu rêvé, franchement, honnêtement, moi, j'étais de cela. Quand Charles Leclerc a dit je rêve de faire les 24 heures du Mans avec Ferrari, quand on a vu que les 24 heures du Mans étaient sur un week-end qui n'était pas en concurrence avec la Formule 1, on s'est dit là, ils ont tout bien fait. Mais je dirais que Leclerc et même Sainz, hein, qui étaient peut-être éligibles aussi, parce qu'ils ont dit on ne prendra que des pilotes sous contrat Ferrari. Donc, tous les pilotes Ferrari. Qui roulent régulièrement et qui ont un attachement à cette marque sont éligibles pour un baquet au Mans et en championnat du monde WEC cette année.
Bon. Eh ben non.
Alors, on a été refroidi assez vite parce qu'ils ont dit prime, je dirais, la fidélité. Mmh. Et c'est ça aussi que j'aime dans ce projet Ferrari. J'y reviendrai juste après, mais ils se sont engagés dans une formule de réglementaire où on dit on fait tout nous-mêmes. Voilà, c'est le label Ferrari, tout sous un toit. Et puis, on prend les pilotes du cru. Alors, ça ne fait pas des noms qui sont très, très impressionnants. Antonio Giovinazzi, on le connaît, il a eu un parcours chez Alfa Romeo
en Formule 1.
Ça s'est terminé un petit peu, expérience décevante en Formule E, et peut-être qu'il a trouvé finalement son moyen d'expression ici.
Je pense qu'il est, il après, est prêt, il est passé en Formule E pour attendre ce volant en endurance.
Je pense quand même que dans l'esprit, il espérait y rester, mais il a été particulièrement décevant. C'est assez étonnant, mais je m'attendais à d'autres noms. Mais à partir du moment où on nous avait dit que ça sera des pilotes du cru, alors on a équipage le numéro 50, Foucault, Molina et Nielsen, la 51, donc Giovinazzi, avec Pierre Guidi, qui a été quatre fois, je crois, vainqueur des 24 heures du Mans en GT.
J'ai pu, mais c'est un palmarès exceptionnel, avec James Calado d'ailleurs.
Exactement, donc ça c'est quand même du solide, mais j'ai remarqué quand même une phrase de Antonello Coletta. Donc, le directeur d'équipe de AF Corse, qui est l'équipe en fait qui
va
soutient le programme officiel, il a dit il va falloir que ces pilotes fassent leur preuve pour rester dans l'équipe à l'avenir. C'est-à-dire que ces pilotes viennent du GT globalement, et que là, maintenant, il y a un step quand même, il y a un pas à franchir. Il va falloir quand même qu'ils méritent maintenant leur place à long terme, je dirais, sur le terme chez Ferrari.
Et là, il y a un petit doute. En tous les cas, il aura mis un coup de pression, hein, clairement. Et c'est vrai que je suis un petit peu, je m'attendais à des noms un petit peu plus
ronflants.
Voilà, tout à fait.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr que quand on voit Ferrari revenir en catégorie reine, on a forcément pensé. Moi, j'ai forcément pensé à un équipage Leclerc, Sainz, Giovinazzi. Ouais.
Alors ça sera bon peut-être pour l'avenir, parce que bon, globalement, ils sont là un petit peu pour essuyer les plâtres, on va dire, c'est-à-dire qu'on démarre. Et d'ailleurs, James Calhoun l'a dit, faut pas s'attendre à ce qu'on soit devant ou à ce qu'on casse tout. D'entrée.
Il a commencé déjà en casser une de Ferrari.
Tout à fait. Mais globalement, ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que là, ce retour après 50 ans d'absence, c'est pas le retour de la Scuderia, c'est le retour de Ferrari avec une structure privée, je dirais, AF Corse, qui est Amato Ferrari, qui a monté cette équipe qui gérait au début des années 2000 le trophée Maserati et qui avait engagé en GT la superbe Maserati MC12,
oui.
Et puis qui s'est tournée ensuite vers la marque Ferrari pour rouler en GT. Ça fonctionnait très très bien, mais je dirais que c'est pas Maranello qui est derrière tout ça. Et je sais pas toi, mais j'ai été un petit peu surpris de certains choix. Ils ont dit aussi, ils ont regardé sur le choix de motorisation V6, V8, V12. V12 quand même, faut avoir du cran pour venir avec un V12. Hein.
Oui.
Et là, ils ont choisi
de
V6. Ils nous disent pour des questions marketing. Et là, j'étais un petit peu surpris parce que quand tu essaies quand même de gagner au Mans, tu vas pas juste parce que pour dire l'architecture de notre moteur, c'est l'architecture de la prochaine 296 du groupe 3 de l'année prochaine. C'est un petit peu surprenant et je me demande s'ils vont pas un petit peu revoir leur copie rapidement, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc tant mieux.
Je pense pas qu'ils revoient l'architecture du moteur parce que ça, c'est le V6, c'est évidemment le moteur à combustion et avec l'hybride, il a quand même une importance un petit peu moindre. Je partage pas tout à fait ton avis sur le fait que ça soit moins bien, que ça soit pas fait à Maranello, parce que pour tout te dire, l'aventure de Peugeot à la fin des années 2010. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, je pense qu'elle aurait été mieux gérée si on avait confié cette équipe à Henri Pescarolo, par exemple, qui a, de la même manière que Porsche est venu très très longtemps sous l'étiquette Yost, et ensuite ça a été repris par Audi. Honnêtement, je pense que c'est pas une mauvaise idée quand même de s'en remettre à une structure qui a l'habitude de faire, oui, de faire de l'endurance. Le châssis, c'est un châssis d'Alara, donc on sait faire des prototypes. On va voir. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une pression absolument colossale, et ça s'est vu d'ailleurs là, l'erreur de James Calado à Sebring. C'est pas un hasard, hein, c'est parce qu'ils savent qu'effectivement les pilotes, il y en a beaucoup qui vont vouloir venir prendre leur volant, et il va y avoir une pression sur les épaules de ces pilotes Ferrari énorme, et ça peut se retourner contre eux. Mais donc, ces deux équipages Ferrari ont donc obtenu 3 étoiles dans notre classement. Alors, ça, c'est notre classement, hein, Stéphane et à moi. Vous pouvez faire le vôtre, le mettre sur le hashtag Les Fous du Volant. Vous êtes tout à fait aussi légitime que nous. Hein,
Et puis, on regardera ça, puis on verra ce que ça donne à peu près dans 6 mois quand les premières courses seront passées, quand les 24 heures du Mans auront lieu. Et puis
le dimanche soir des 24 heures du Mans, on regardera ça.
Voilà, donc. Mais en tous les cas, c'est énorme en sport automobile d'avoir Ferrari en Formule 1, évidemment, qui joue les premiers rôles et qui est de retour aussi au Mans. Voilà, tout à fait.
Et au Mans, évidemment. Le rendez-vous quand même qu'on vous donne, le départ, ça sera vendredi. Donc à 17h, on sera sur l'antenne d'Eurosport une demi-heure avant, notamment avec Paul Belmondo et Franck Lagorce pour se mettre dans l'ambiance de ces 1000 miles de Sebring qui ouvriront donc le calendrier du championnat du monde 2023 d'endurance. Autre information qu'on peut vous donner avant de se quitter, ce sont les horaires du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui va nous occuper aussi ce week-end.
Ça va être un week-end. J'espère que tu les as préparés parce que moi je ne les ai pas.
Ah, mais évidemment. Mmh. Alors, Essai Libre 1, vendredi à partir de 14h30.
Voilà,
vous aurez le temps de prendre une petite collation avant d'enchaîner avec les 1000 miles de Sebring. Samedi, la qualification, c'est à partir de 18h et le Grand Prix, ça sera évidemment dimanche à 18h également. Et on se retrouvera nous la semaine prochaine pour faire le point avec Stéphane sur ce deuxième Grand Prix de la saison qui paraît déjà très très important pour Mercedes. pour Ferrari aussi, bah pour Aston Martin, pour
Alpine, tout à fait, pour McLaren qui n'était pas dans les points. Enfin, exactement. Il y a déjà des gros enjeux. Tout le monde est un peu sous pression parce que Red Bull est très très loin devant.
Ouais.
Et Aston Martin a montré que en faisant des recrutements judicieux, on pouvait rattraper, faire un bond de géant cet hiver.
Et on rappelle, mission 33 pour Fernando Alonso. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on prononce la célèbre phrase désormais. On a tout dit, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on coupe le contact.